Alors, donc nous avons Margela Bepoumé de Rava. Il y avait une perle où il avait l'habitude, c'est une expression, une perle dans la bouche de Rava. Comme on dit, les perles de celui-là, les perles de celui-là. Eh bien, il avait cette habitude de dire cette phrase-là. Tachlit chokhma tshuva. L'objectif, le tachlit en hébreu, c'est un objectif, le but. D'accord ? Le tachlit de la vie, le tachlit de quelque chose. Quoi ?
Le concret.
Non. Oui, mais ça, c'est une approximation du mot. Le tachlit en hébreu, c'est le but. Tachlès, concret, c'est une expression
en argotique.
Tachlès, mais c'est pas comme ça. Tachlès, c'est le but. Le but de la sagesse, l'objectif de la sagesse, tshuva. Alors on va reprendre. Umasim tovim, c'est le repentir et les bonnes actions. Ça veut dire qu'un homme qui acquiert de la sagesse, bien sûr, on parle d'étude de la Torah, tout type de sagesse, pas seulement au travers de la Torah, mais même une sagesse plus grande, plus large, une sagesse sociale, une sagesse personnelle, l'objectif, c'est la tshuva. Ou Massim Tovi, bonnes actions. Alors c'est un peu brutal, parce que la tshuva, on va pas mettre la tshuva partout, je veux dire, bon ça va, on vient étudier, on ne va pas toujours faire tshuva. En réalité, le mot tshuva, il est galvaudé. Le mot tshuva, c'est juste, c'est pas forcément se repentir des fautes, d'accord ? On peut faire tshuva même si on n'a jamais fait de faute. À comment on peut faire ? Parce que la tshuva, c'est une mitzvah en soi-même. Or, ça serait un peu bizarre que ne puisse faire cette mitzvah que celui qui a fauté. Tshuva, c'est se rapprocher d'Hachem, d'accord ? D'accord. Donc quelqu'un qui avait fait fauter, forcément il s'est écarté d'Hachem. Quand il fait tshuva, il se rapproche de nouveau. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de faute, est-ce qu'il peut faire tshuva? En réalité, oui. Il dit pourquoi? Parce que la création en elle-même, elle nous éloigne d'Hachem. D'accord. Et avec le temps, on prend conscience qu'Hachem est présent. Alors, que veut dire la chokhma? La sagesse, ça veut dire la sagesse que t'apporte la Torah, elle te rapproche tout doucement d'Hachem et tu te rends compte que finalement, il y avait des choses que tu n'avais pas comprises. C'est pas que tu as fauté, mais tu étais dans un niveau de perception, un niveau de compréhension, un niveau de rapprochement d'Hachem qui est bien loin de ce que lui tu as maintenant. Donc finalement, tu as fait tshuva. Donc on peut faire tshuva, ça veut dire on peut faire tshuva en étudiant. Faire tshuva dans le sens, on peut se rapprocher d'Hachem, même si on n'a pas fauté. C'est-à-dire être plus grand qu'hier. C'est ça l'objectif du judaïsme, c'est d'être chaque jour plus grand. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il dit, pour bien comprendre, Tachlit Chokhma Tshuva. Et donc, quand on étudie, ce qu'on étudie ce soir ou demain soir, ou quand vous lisez un livre ou n'importe quoi, finalement, ça vous propulse vers la Tshuva. D'accord ? Puisque ça vous fait comprendre des choses, ça vous amène vers un monde qui est moins dirigé par la matière, plus spirituel. Uma Asim Tovim, mais bien évidemment que la sagesse, elle doit amener aux bonnes actions. C'est-à-dire que la sagesse de la Torah, c'est pas juste une sagesse intellectuelle, c'est une sagesse qui pousse à l'action, parce que l'action, elle assied la chokhma. Ça veut dire que dans la Torah, l'action, elle t'aide à percevoir des choses, mais également l'action, elle t'aide à ancrer dans ton quotidien tout ce que tu as perçu dans ton étude. C'est-à-dire une étude qui n'est pas liée avec une action, même petite, d'accord ? Eh bien, c'est de l'intellectualisme, c'est pas ce qu'on appelle de la chokhma. La chokhma chez nous, dans la Torah, comme tu parlais de Zaken, Zaken, c'est la contraction de Zekana Chochma, celui-là acquis de la sagesse. On peut être Zaken jeune, puisque c'est acquérir de la Chochma, c'est devenir Zaken. Alors souvent, on est Zaken quand on est vieux. Mais en réalité, il y a des Zaken qui sont jeunes. Il y a des hommes sages qui ont acquis de la sagesse jeunes. Ok ? Donc, il faut se rappeler de cette phrase-là. Tachlit Chochma, c'est ça qu'il disait Rava, l'objectif de la sagesse, c'est la tshuva dans le sens de se rapprocher d'Hachem, Masim, Tovim et bonnes actions dans le sens d'ancrer la chokhma dans le réel. C'est ça l'idée des bonnes actions. Pourquoi ? Chez lo yadam kore veshone. Il ne faut pas qu'un homme il lise et qu'il étudie ou bo'et, be'aviv ou be'imo et finalement il repousse son père, sa mère ou be'rabo ou son maître ou be'mish et gadol mimen ou be'chokhma ou be'minyan ou quelqu'un qui est plus grand que lui. C'est-à-dire que le comportement, il doit aller de pair avec la sagesse. C'est inadmissible que quelqu'un, il n'ait pas un comportement social et moral qui ne soit pas en accord avec sa chokhma. Oui, comme la Gemara a dit, c'est que si celui qui t'apprend, il est comme un ange, oui, mais sinon tu t'écartes de lui. Alors, il y avait un joli commentaire, c'est comme un ange. Il n'y a pas des gens qui sont comme des anges. Il dit non. C'est quoi, c'est Ramon Shefanishan qui avait dit ça. Qu'est-ce qu'on attend d'un maître? Qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant? quelle est la définition de l'ange? Ah, bien sûr que l'ange, toujours on dit c'est le summum, mais l'ange, il est créé comme ça. D'accord? Un maître, il ne va pas être comme un ange. Sinon, c'est un robot. Un ange, c'est un robot. D'accord? Il n'a pas de libre arbitre, il ne sert à rien. D'accord? Enfin, il est la main d'Hachem pour accomplir des actions. Mais pour nous, un ange, ce n'est pas un exemple. Il n'a pas de libre arbitre. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu quand il est allé chercher la Torah. Les anges ont dit, pourquoi ce n'est pas nous qui avons la Torah? Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que vous faites avec la Torah? Vous n'êtes ni père, ni mère, ni libre arbitre. Il n'y a rien qui vous tente. Qu'est-ce que vous allez faire avec la Torah? Ça va être un trésor de l'intellectualisme. Il dit, nous, la Torah, elle nous aide à progresser. La Torah, elle est là pour aider un homme à s'améliorer. Donc, pourquoi la Gemara dit que si le maître, il ressemble à un ange, faut apprendre? Mais je veux pas d'un maître qui ressemble à un ange. C'est-à-dire, c'est très bien, Papa Salé. Oui? En imaginant. Mais il est tellement loin. Il est tellement loin de mes préoccupations que j'ai un peu de mal, quoi, avec quelqu'un d'aussi grand. Hein. Il connaissait tout. Il avait quasiment plus de, etc. D'accord? Donc, en réalité, je crois que Moshe Feinstein, il avait dit ça, non. Ce qu'on attend d'un maître, c'est d'être comme un ange. C'est quoi un ange? Un ange, il a les deux pieds joints dans la Amida. Pourquoi on fait les pieds joints? Oui, parce que on veut ressembler aux anges. Et que ça veut dire de ressembler aux anges? C'est qu'en réalité, l'ange, il peut pas avancer. Il est là où on le pose, c'est comme des Legos. Il n'a pas la force d'avancer, ça veut dire qu'il ne peut pas progresser. Là où il est, le niveau qu'on lui a donné, la fonction qu'on lui a donnée, il est là. Il n'a pas la capacité de progresser. D'accord? Donc, il dirait, Moshe Feinstein, que le vrai enseignant, c'est celui qui est capable d'arrêter sa propre progression pour la progression des autres. C'est-à-dire celui qui est capable de dire, bon, c'est vrai que je pourrais beaucoup étudier là maintenant, mais c'est pas grave, je vais joindre les pieds, je n'avance pas, d'accord, pour aider l'autre à avancer. Il dit, c'est en ça que l'enseignant, il doit ressembler à un ange, pas dans sa perfection. On n'attend pas d'un enseignant de la perfection. On attend de l'enseignant de sentir qu'il est capable de perdre du temps, d'accord, et donc de perdre un peu d'une éventuelle progression pour pouvoir s'occuper de l'autre. C'est comme ça qu'on peut apprendre. D'accord? C'est ça l'ange. Ok? Après, chez Neymar, comme c'est marqué, Réchit Chochma, le début de la sagesse, Irat Hashem, c'est la crainte d'Hashem. Alors, on a dit, nous, que c'était l'objectif. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, quand on emploie le mot Réchit, c'est intéressant, parce qu'en général, le mot Réchit, c'est le début, d'accord? Mais souvent, dans les textes, le mot Réchit, il est employé pour dire... Non, pour dire l'idée première, d'accord? Comme même dans Béréchit, d'accord? C'est aussi cette idée-là. Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui motive? Or, Réchit, Chochma, c'est pas le début de la sagesse, c'est le... L'intention première de la sagesse, c'est la Yirat Hashem, c'est craindre Dieu. D'accord? Parce qu'on peut pas imaginer que le début de la sagesse, c'est craindre Dieu. C'est la sagesse qui t'amène à la crainte de Dieu. Donc, ici, dans le mot Réchit, oui, c'est plus dans le sens, l'idée première vers laquelle doit aller la sagesse. Donc, en réalité, Yirat Hashem, ça demande même une mise en condition de l'abord de la Chochma. Ça veut dire, si quelqu'un, il veut se mettre, il veut étudier du Ramchal, il veut étudier du Rambam, etc., il doit savoir qu'il ne fait ça pas juste pour connaître les grands penseurs du judaïsme. Oui, quand on aborde ça, c'est pas comme une démarche philosophique, je voudrais savoir l'idée des grands penseurs. Non, Réchit Chochma Yirat Hashem. C'est vrai que tu t'intéresses à la Chochma du judaïsme, mais en réalité, tu dois savoir que tu fais ça pour te rapprocher d'Hashem et craindre Hashem. Sechel Tov Lochos Olseem, et ça donne une intelligence à tous ceux qui pratiquent, Teilato Omedet Lahad, et la louange sera éternel. Alors, bon, le mot louange ici, soit c'est la louange qu'ils adresseront à Hachem, soit la louange de celui qui se comporte comme ça. Et la Gemara dit, c'est pas marqué, c'est chel tov le chol l'homme d'Hem. Les l'homme d'Hem le Nehemar. Il dit, c'est un paradoxe, ça c'est un pasuk dans Tehilim. Il dit que la chochma, oui, elle amène, c'est chel tov, une intelligence, le chol atsem à tous ceux qui font. Alors la Gemara dit, mais les l'homme d'Hem le Nehemar, c'est pas marqué à ceux qui étudient, on aurait dit la chochma, elle amène Sechel Tov, les l'homme d'Hem, pour ceux qui étudient. Il dit non, la Chochma ne peut amener un Sechel Tov que les OCM, que ceux qui pratiquent. C'est à ce moment-là que, sinon, si c'est une Chochma qui est détachée de l'action, qui est détachée de la mitzvah, alors elle est stérile. Elle a les OCM. Et donc la Gemara dit, c'est qui les OCM? Les Osim Lishma. C'est ceux qui font les Shem Shamaim pour Hashem. Velo le osim shelo lishma. et pas qui, ceux qui font pour, une, pour un intérêt pour l'intellectualisme. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une Gemara qui dit, on avait déjà parlé de cette idée de l'Ishma. D'accord? C'est intéressant, c'est dans les motivations de l'étude. Si on faisait un tour de table, pourquoi chacun est là? Quelle est la motivation de chacun? C'est pas très grave, parce que, oui, on a tous des motivations différentes dans l'étude, pourquoi il vient, pourquoi il... Chacun. Et, alors, la motivation première, on avait dit, c'est pour se rapprocher d'Hachem, ce qu'on appelle l'Ishma. L'Ishma, c'est pour Hachem. Ça veut dire, j'étudie parce qu'Hachem m'a demandé. D'accord? Il m'a demandé, j'étudie un peu tous les jours, ce que je peux, demain encore plus, etc. Mais je fais pas pour faire plaisir mon père, ma mère, ma femme, pour me montrer, pour les convaincre. Non, ça c'est l'Ishma. Et la Gemara, pourtant, elle dit que Leolam Yilma Dadam, un homme, il doit toujours étudier. Afilo Shelo Ishma. Même si c'est pas l'Ishma. Il dit pourquoi? Shemitor Shelo Ishma, Balishma. Parce que, au travers d'une étude intéressée, il viendra une étude désintéressée. On peut pas arriver directement, tu peux pas, quel que soit l'âge, tu peux pas dire oui, tu es pour Hachem, tu dis non. On doit étudier parce qu'il y a des copains, parce qu'il y a des gâteaux, parce qu'il fait bon, parce que c'est sympa, parce que c'est rigolo, parce qu'il y a des copains. C'est très bien d'étudier comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que tout doucement, on comprend que c'était une porte d'entrée dans l'étude. Et pourtant, ici, c'est marqué, là aussi, milishma, mais là aussi, nechelishma. C'est qu'en réalité, il y a deux types d'études, de comportements intéressés. Il y en a un seul qui est critiquable, c'est ceux qui étudient pour trouver des armes pour contrer, d'accord, ce qu'on appelle les canters, pour critiquer, d'accord, les gens qui viennent pour apprendre, pour avoir des armes, pour se retourner contre les autres, oui, eh bien, ça, c'est mieux de ne pas étudier. Par contre, toutes les autres motivations, quelles qu'elles soient, l'honneur, l'orgueil, le ci, le ça, c'est aucune importance, il faut laisser tout ça de côté, l'essentiel que je sois assis à étudier, ok. Et la Gemara, c'est d'ailleurs ce qu'elle dit, « V'chola osim shelo lishma » Tous ceux qui étudient chez le lishma, mais le mauvais chez le lishma, ça veut dire un chez le lishma agressif, noachlem chez le nivreu, il aurait mieux valu qu'ils ne soient pas créés, parce que ça ne peut pas les amener à une amélioration de leur personne. Ok? On est bon? Paragraphe suivant. Margela. Alors regardez bien, ça c'est très important. Margela be poumé de Rav. Il y avait une perle dans la bouche de Rav. Donc Rav, c'est un Rav de la Gemara. Qui est son chaver? Maurice. Comment il s'appelle le chaver de Rav?
Abaye.
Non, c'est pas mal. Abaye, c'est Rava. Abaye et Rava. D'accord? Ils sont toujours par pair.
Ah oui.
Ok, les copains de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, c'est qui son copain? C'est Rech Lakish, toujours le bandit, l'ancien bandit. Etc. Ils sont connus, ils ont des relations toujours très intimes, ils sont très liés. Donc, Abaye, c'est Rava. Rav, son chaver, c'est Shmuel. Rav et Shmuel, c'est les deux copains. Pique et ploc. D'accord, c'est comme ça. Hein. Ils sont comme ça dans la Gemara. Ils sont inséparables. Et en général, dès qu'un il dit blanc, l'autre il dit pourquoi pas noir. C'est comme ça que ça marche. Ça fonctionne comme ça. Un, il est pas le faire valoir, mais il essaye de motiver, d'essaye de faire réfléchir l'autre pour le faire sortir ce qu'il a. Alors, ce cher Rab, qu'est-ce qu'il disait? L'eau qui est olamazé à olamaba. C'est pas, écoutez bien, comme ce monde-ci, le olamaba. À olamaba, le monde à venir, le monde futur, enbo lo achila, il y a ni manger, velo shtia, ni boire, velo piria berivia, ni procréation, velo massa omatan, ni commerce, velo kina, ni jalousie, velo sina, ni haine, velo tacharut, ni exactement compétition. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Et la tzadikim yoshvim va'atorotem berachem. Les tzadikim sont assis avec des couronnes. Sur la terre, on va expliquer tout ça. Venene Miziv Ashrina, et il profite de la présence d'Hachem. Alors, il faut expliquer trois termes. Vous avez Olamazé, bon ça c'est simple, c'est ce monde-ci. Olamaba, et vous avez aussi le Gan Eden. D'accord? Alors, quelle différence il y a entre la Olamaba, le Gan Eden, et il y a la résurrection des morts qui vient là-dedans? Ok? Donc, en vérité, il faut savoir, c'est des choses que on ne sait pas, elles ne sont pas explicitées dans la Torah. La Torah ne parle jamais d'ailleurs du monde à venir. Si vous remarquez, c'est de façon tout à fait paradoxale, la Torah ne parle pas de ça. Elle parle que des brachot. Toutes les brachot qu'on a, c'est dans ce monde-ci. Tes jours s'allongent, la pluie, la rosée, les enfants, etc. La Torah ne dit pas oui, mais plus tard tu verras. On ne nous promet jamais un plus tard. Commence ici, les chachamim. Après, il y a la tradition orale, etc., qui nous dit que. Mais la motivation d'un homme, ce n'est pas comme d'autres religions où. où tout est à venir. Chez nous, tout est présent. Le bonheur, il est ici. D'accord ? Et on doit faire les mitzvot pour avoir un bonheur dans ce monde-ci. C'est ça le rôle des mitzvot. Et si on les fait, on aura aussi une récompense dans la mama. Mais on doit être heureux dans ce monde-ci. C'est le début du Messilat Yesharim. Hachem, il a créé l'homme dans ce monde pour que l'homme soit heureux. Donc, et d'ailleurs, les commentateurs disent que si quelqu'un, avec sa Torah, il n'est pas heureux, c'est qu'il n'a pas bien, c'est pas une bonne Torah. C'est pas, la Torah, c'est une Torah de Chaim, une Torah de vie. Et si quelqu'un, ça lui crée des soucis, Shabbat, le ci, le ça, ou n'importe quelle cache-route, ou n'importe quelle loi, c'est qu'en réalité, ça lui a été mal enseigné. Parce que normalement, les mitzvot, elles doivent rendre un homme heureux. C'est ça l'objectif. À présent, maintenant, on verra. Hein, comme l'Agmara a dit, ça nous intéresse plus tellement. Qu'est-ce qu'on fait après 120 ans? De manière, on peut plus progresser. On est coincé, on est comme des anges. Il n'y a plus de progression après 120 ans. On bénéficie de ce qu'on a fait. D'accord? Mais le Rav Etraïm, il a dit avant de mourir, il a touché ses tzitzit, il regarde. Un tzitzit, un talit katan ou un talit gadol. Ça coûte quoi? 5€, 10€. Il dit avec ça, tu peux faire une mitzvah qui vaut comme toutes les autres mitzvot. Mais après, même avec 10 millions, je pourrais rien faire. D'abord, on n'aura pas des millions. Mais il y a, ici, ce monde-ci, avec 5 centimes, mais la tzaka, avec 10€, tu fais ça, avec ça. Il n'y a pas qu'avec l'argent. Avec tes pieds, avec n'importe quoi, tu peux gagner un monde. Un monde, pas un monde à venir, un monde présent. Il dit, mais après, c'est fini. D'accord? Donc, il faut entasser les mérites pour le monde futur, c'est vrai, mais surtout pour ce monde-ci. Alors, revenons. Le Olam Haba, ouais. C'est le monde qui viendra après la résurrection des morts. Il y aura la résurrection des morts, il y aura le Olam Haba. D'accord ? C'est-à-dire que quand il y aura la résurrection des morts, les corps ils vont se réincarner. D'accord ? C'est ce qu'on attend. Ok ? Et pourquoi ça sera ça ? Alors, la Gemara explique, c'est parce que Hachem, il voulait que ce corps, il soit récompensé de nous avoir aidés. D'accord ? Ce corps qui parfois est notre ennemi, enfin notre ennemi, c'est lui qui a un empêcheur de tourner en rond. Mais à partir du moment où il nous a aidés, il doit être récompensé au même titre que l'âme. Donc, on ne pourrait pas imaginer que notre corps il reste en poussière et qu'il n'y a que l'âme qui profite. Donc Hachem, il y a un système de triatamatim, de résurrection des morts, où le corps et l'âme, donc l'âme dans ce corps, comme on est maintenant, va profiter. Enfin, un peu mieux que maintenant, parce qu'on sera guéri de tous nos bobos, on sera bien arrangé, on sera tout jeune, je ne sais pas quel âge, etc. Mais en tout cas, ce sera ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Le Gan Eden, alors ce qu'on appelle le Gan Eden, c'est le jardin d'Éden. On va dire, c'est l'endroit où les âmes vont après la mort. Il n'y a plus de corps. Donc, d'accord, ça c'est l'opinion du Ramban. Que le Gan Eden, quand l'homme meurt, l'âme et le corps se séparent. L'âme, elle va au Gan Eden. D'accord? Mais le Olam Haba, c'est après la résurrection des morts, où l'âme réintègre le corps et elle vit une vie normale. Sauf que cette vie normale, elle n'est pas assujettie à tout ce qu'on connaît maintenant. C'est ce qu'il dit ici, qu'il n'y aura pas ni manger, ni boire, ni rien du tout. On sera tous copains, mais il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de mauvais sentiments. On sera là pour profiter avec notre corps de tout ce qu'on a acquis dans ce monde-ci. D'accord ? Il n'y aura plus de friction, etc.
Ça correspond à la venue du Messie, non ?
Oui.
Oui, d'accord.
Oui, la résurrection des morts, c'est après, il y aura la venue du Mashiach, d'accord, qui sera annoncée par Eliyahu Hanavi, et à ce moment-là, alors, qu'on s'entende, hein, même tout le monde dit que, même le plus grand penseur, que le Ramban, ils te disent, on avance ça, mais tout doucement, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passera. A priori, mais sous toute réserve, il devrait y avoir, à l'époque du Mashiach, il y aura ces histoires de guerre, etc. Exactement, avant l'avenue du Mashiach, les grandes guerres qu'on attend, qui est venue ou pas venue, on ne sait pas très bien. Personne ne sait. Quand il y avait la guerre de 39-45, ils ont dit c'est ça, après ils ont dit c'est pas ça. C'est pas très grave ce qui va se passer, mais en tout cas, il devrait y avoir une guerre, etc. Mais après, il devrait y avoir un moment où tout le monde meurt, d'accord? Et après, il y a la résurrection des morts. Ok? Alors, comment ça va se passer? Dans quel ordre? On ne sait pas. Ok? Ça, c'est l'opinion du Ramban. Maintenant, le Rambam, lui...
Par l'os.
Hein? Oui, ça c'est la résurrection, c'est par l'os. Exactement. Bon, on va laisser l'opinion du Rambam, elle est un peu différente, parce qu'il y en a qui disent que le Gan Eden, Oui, le Rambam, en tout cas, il est de cet avis-là. Nous, on a dit que le Gan Eden, c'est après. Les âmes vont au Gan Eden, sans le corps. D'accord ? Ça, c'est clair. Et le Lama Ba, c'est après la résurrection. Le Rambam, lui, dit que le Gan Eden, en fait, il y a un Gan Eden ici, dans notre monde. C'est ce qui est un peu logique, parce que quand Hachem, il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le Gan Eden. Ils avaient un corps. Donc, il y a un Gan Eden sur cette terre. Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est au fond de la jungle ? Ou à moins qu'il soit dans un monde parallèle, un truc comme ça. Tu sais, il y a ces histoires où, comme maintenant, on sait très bien, avec des nouvelles inventions, on sait très bien masquer quelque chose. D'accord ? Donc c'est possible que le Gan Eden, il soit quelque part, mais caché du regard des autres. Okay ? Ou il est caché par la nature, parce qu'il est au fond de je ne sais pas où, ou alors il est caché du regard. Mais le Rambam, il dit qu'il y a un Gan Eden dans ce monde-ci. D'accord ? C'est juste l'opinion du Rambam. En tout cas, le Olam Haba, qui sera la période, d'après le Ramban, d'après Nachmanine, après la résurrection des morts, eh bien, ça sera un monde avec le corps, mais il n'y aura rien de matériel. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on fera ? Qu'est-ce qu'on fera ? Il dit, on fera chiour toute la journée. D'accord ? Mais comme on ne sera pas fatigué, il n'y aura pas de sommeil, il n'y aura rien. Donc il dit, alors est-ce que le temps il ne sera pas le même, etc. Donc on ne peut pas juger, parce que sinon c'est vrai qu'on se dit, mais quoi, attends, je ne tiendrai pas moi, avec plus que 3 heures d'études par jour, je ne peux pas, j'ai besoin de me reposer. C'est qu'en vérité, et le temps ne sera pas pareil, et le corps ne sera pas pareil, donc il ne faut pas s'affoler sur ce qui va se passer, d'accord. Et combien de temps ça va durer? Alors aussi, le post-Olam Haba, on l'avait vu ici, vous vous rappelez, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble, le post-Olam Haba, il y a certains philosophes, penseurs juifs, qui disent qu'en fait, ce sera une sorte de fin du monde. On en avait déjà parlé. Où c'est marqué « Vinisgab Hachem Levadou Hachem restera seul ». Ça veut dire que tout ça, c'est des phases de progression, d'accord, pour faire avancer l'homme, le faire comprendre, qu'en fait, nous, on est tous des petites bougies séparées de la grande bougie. D'accord ? Nous, ce qui fait vivre nos corps, c'est la Neshama. La Neshama, c'est une parcelle d'Hachem. D'accord ? Étant donné qu'elle a été séparée et qu'en plus elle a été mise dans un corps matériel, elle a l'impression d'être autonome. Alors qu'en réalité, elle n'est pas du tout autonome. Elle est reliée avec Hachem par des milliers et des milliers de canaux. Et tout l'objectif, c'est finalement de se rapprocher d'Hachem. C'est de lui faire comprendre que séparée de lui et dans un corps matériel, elle reste quand même reliée à la source. Si je m'exprime bien. Donc c'est un petit peu regarder l'idée qu'on va voir dans quelques semaines. De Nadav Aviou, les deux enfants d'Aaron, qui sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, etc., et qui sont morts. Alors, pourquoi on meurt quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim ? C'est qu'en fait, ils se sont rapprochés tellement que leur âme, elle a été aspirée, on va dire les choses comme ça. Oui, comme Kla Gmar a dit qu'il y avait des grands Chachamim et des Mekoubalim, que quand ils rentraient trop profond, ils disaient à leur élève, ou à leur Shamash, si tu vois que je m'élève trop, tu me ramènes à la terre. Parce qu'ils avaient peur de trop partir loin. Donc en réalité, quand on dit par exemple que le post-Olam Haba sera une disparition du monde, c'est pas une disparition, c'est pas la bombe atomique. Puisqu'on sera déjà dans une phase post-messianique, etc., il y aura plus de guerre, c'est pas ça. C'est que quand les hommes auront encore et encore et encore progressé dans leur compréhension d'Hachem, eh bien toutes les flammes se réuniront. Et à ce moment-là, il ne restera plus qu'Hachem. C'est clair à peu près ? Bon, donc c'est vraiment des visions... c'est aucun intérêt pour nous, voilà. Nous maintenant, c'est maintenant, jusqu'à 120 ans, c'est maintenant que ça se passe. Et donc chez Nehema, donc il dit, c'est quoi Veneni Miziba Shrina ? Et on profitera, vous êtes bon ? On profitera... Voilà, voilà, je suis à la... La dernière ligne du paragraphe.
Avant-dernière ligne.
Non. Vénénim, Mizivashrina. Juste avant le mot Tanoura Banan, vous êtes bon ?
Ouais.
Et on profitera de la Shrina. Donc la Shrina, c'est la présence divine. Chez Neymar, comme c'est marqué au moment du don de la Torah, Vayechezouet Elohim, Vayechul Vayishtu. Ils ont vu Hachem, ils ont mangé, ils ont bu. D'accord ? La Gemara a dit, mais ça veut dire quoi ? Ils ont mangé, ils ont bu. Quand on voit Hachem, c'est pas qu'on mange vite. Non, ils se sont nourris. C'est-à-dire qu'on peut se nourrir spirituellement. Et ça nous explique aussi pourquoi Moshe Rabbeinu a passé 40 jours dans le mont Sinaï pour recevoir la Torah sans manger, ni boire, ni dormir. D'accord ? C'est un état second où il n'y a plus besoin, on se nourrit de la présence d'Hachem. D'accord ? C'est ça, comme ça que ça sera Olam Haba. Très bien. Tanou Rabbanan. Vous êtes bon ? Les Rachamim m'ont enseigné. Et voilà, c'est quelque chose pour avancer à la maison, ça. Gdola Avtacha. Elle est grande, la promesse. Shivtichan Akadosh Baruch Hu Lenashim. Qu'Hachem a promis aux femmes. D'accord ? Yoter Mina Anashim. Plus que ce qu'il a promis aux hommes. Ça veut dire que le lien entre la femme et Hachem est plus grand et plus profond qu'entre l'homme et Hachem. Chez Nema, comme c'est marqué, Nashim Sha'ananot Komna, vous les femmes tranquilles, levez-vous. Shema, ça c'est le prophète Ishaïa, écoutez ma voix. Benot Botrot, vous les filles qui avez confiance, Azena Imrati, écoutez ma parole. C'est-à-dire que les femmes, elles sont plus sensibles, plus réceptives à la parole d'Hachem. Et c'est pour ça que vous avez deux termes, Sha'ananot et Botrot. Sha'ananot, c'est tranquille, la tranquillité dans Olam Hazeh. Et Botrot qui a espoir du monde futur. Alors, Agmar a dit, Amar le Rav le Rabbi Chia. Rav, il a dit à Rabbi Chia, Nashim b'may zachyan. Les femmes, en quoi elles peuvent mériter, quelle est la chose qui leur permet de mériter un grand niveau dans Olam Haba ? Quelle est la question ? C'est qu'en réalité, on sait que l'étude de la Torah, c'est ça qui propulse un homme, c'est ça qui lui donne la chokhmah, c'est ça qui... Et en réalité, la femme, bien sûr qu'elle a ses propres mitzvot, bien sûr que la femme, elle a accès à l'étude. Mais souvent, même si des femmes sont très intellectuelles, si elles veulent construire un foyer, si elles veulent avoir des enfants, c'est au détriment de leur progression spirituelle. Et l'homme, il fait des cours, les femmes aussi. Et c'est pas au contraire, les femmes, elles sont encouragées à progresser. Mais il n'empêche que leur fonction, la manière dont Hachem il les a créées, et leur fonction dans ce monde, elles font qu'elles ont moins la possibilité. Et donc si c'est la Torah qui propulse un homme, la Gemara elle s'étonne, elle dit, mais alors, une femme, comment elle va être propulsée ? Regarde ce que dit la Gemara. Et...
C'est la procréation, la femme.
Alors, pas seulement. Ouais. La Gemara dit, voilà, il y a trois choses qui donnent un très grand mérite à la femme. Be'agruye banayu le beknishta. Quand elles accompagnent leurs enfants au Bet HaKnesset, c'est-à-dire quand elles s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Le moteur de l'éducation des enfants, c'est la femme. Plus que l'homme. D'accord ? C'est elle qui motive. Be'atnouye gavrayu be'ravanan. Quand elles propulsent leur mari dans la maison d'études. Troisièmement, ou menatran le gavrayu. Et quand elles attendent leur mari, ad de'atum be'ravanan, jusqu'à ce qu'ils reviennent de la maison d'études. C'est-à-dire que la Gemara dit, la grande valeur de la femme,
ce soir.
Voilà, la grande valeur de la femme, c'est donner la motivation à ses enfants, à son mari, et montrer la valeur qu'elle accorde aux efforts que chacun fait. La Gemara dit, la motivation, c'est en les encourageant à aller. La Gemara dit, ça suffit pas. Quand une femme, elle attend son mari quand il revient de la maison d'études, c'est la plus grande valeur qu'elle peut donner. Parce qu'elle montre que c'est vrai qu'elle se sacrifie, et comme il a dit le Gaon de Vilna, quand sa femme est décédée, vous voyez, il a fait une oraison funèbre, le Gaon de Vilna, c'est un très grand maître. Il a dit, c'est vrai que ma femme et moi, on va partager Olam Haba, parce que tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Il dit, elle a une part encore plus grande. Il dit, parce que quand moi j'allais à la maison d'études, moi j'étais au chaud dans la maison d'études, avec les copains et tout, mais elle était toute seule dans le froid, et elle m'attendait. Il dit, cette part-là, moi je ne l'ai pas. Et ça, elle a une plus grande part que moi. Donc, qu'on s'entende bien, c'est pas du tout péjoratif que le rôle de la femme en tant que moteur, en tant que motivation du reste de la famille, même du mari, c'est-à-dire des enfants, c'est évident, mais même du mari, la femme, elle a ce rôle-là. D'accord ? Et c'est dans ce sens-là qu'Hachem, il a créé, c'est ça son rôle, chacun, il a un rôle différent. Un homme, il va pas se plaindre, comment Hachem, il m'a créé, moi, je peux pas avoir des enfants. Pourquoi c'est qu'une femme qui peut avoir des enfants ? On n'a jamais entendu un homme qui se plaigne de ça. Indépendamment la douleur, le ci, le ça, mais la procréation, le lien qu'une femme elle entretient avec ses enfants, c'est un lien charnel qu'on n'a pas. Nous, on ne sait même pas si on est le père. Comme c'est, Dixit la Gemara. Que la Gemara a dit, on est père. Je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva. Non. Quand j'étais à la Yeshiva, j'étais sorti ça à mon père, mon grand-père. Ils me frappaient. Quand on apprend la Gemara, que la Gemara dit, mais d'où tu sais que tu es le fils de ton père? La Gemara dit, ce n'est qu'une question de probabilité. Ah bon, à part l'ADN, hein. Parce qu'avant, ils n'avaient pas l'ADN. Ouais, la Gemara dit, pourquoi? Parce qu'en règle générale, oui, la majorité des relations d'une femme qu'elle a, c'est avec son mari. Donc, en règle de probabilité, il y a plus de chances que. Mais pas plus que ça. Alors que l'enfant, vis-à-vis de sa mère, c'est un lien charnel. Bon, c'est des évidences. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'est jamais plaint de ça. Pourquoi on ne se plaint pas de ça? Parce qu'un homme, il a admis qu'Hachem, il a créé un homme et une femme différents. On a des rôles, des objectifs différents. Et c'est pas péjoratif de dire qu'un homme, il ne peut pas avoir d'enfant, qu'il ne peut pas enfanter. C'est comme ça qu'Hachem m'a créé. Donc, de la même manière, il ne faut pas du tout voir dans le sens péjoratif ce que la Gemara a dit, que le rôle de la femme, c'est le rôle de moteur, le rôle de motivation du reste de la famille. C'est elle la pile de la famille. Bon, la réalité, c'est comme ça. Quoi?
Leadership
ou moteur. Ouais. C'est comme ça. Chacun, il se rappelle de sa mère, qu'est-ce qu'elle faisait, les efforts qu'elle faisait. Et c'est ça qui... Même le Rav Dessler, il dit, pourquoi je suis grand? Parce que le Rav Dessler, tout est grand, il dit ça. Pourquoi je suis grand? Parce que quand je revenais de la yeshiva, ma mère, elle m'attendait avec des beignets et un verre de thé. Il dit, c'est pour ça que je suis devenu un grand maître. Et c'est pas de la flatterie, c'est parce que c'est comme ça qu'ils ressentent. C'est comme ça qu'ils ressentent les choses qui sont devenues grands grâce à ce que la mère elle a fait pour eux. La Gemara dit, c'est en ça qu'une femme, elle a du mérite. Alors, bien sûr, surtout à notre époque, les femmes, elles sont encouragées à étudier, mais pas à devenir des bêtes d'études. D'accord? Ça veut dire, sinon, ça sera toujours au détriment de sa fonction première. Ok? Très bien.
Je ne sais plus quel grand homme célèbre a dit que derrière chaque grand personnage, il y a une femme.
Eh ben bravo, c'est toi qui l'as dit.
Non, c'est pas moi, c'est pas de moi.
Ah, je vais faire écouter.
Je ne sais pas si c'est un écrivain ou un auteur, quelque chose comme ça, mais...
Ma femme, elle va adorer aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai, ça veut dire que... Ouais.
David, tu permets
Mais de toute manière, toujours je le dis, moi. Si nous tous, on peut être là, c'est parce que... En vrai, en général, on a tous des... Il y a des exceptions, d'accord? Il y a des femmes, on avait dit, il y a des femmes qui sont gentilles, des hommes qui sont gentils, il y en a qui sont plus méchants que d'autres. Mais en règle générale, c'est parce que la femme, elle est d'accord que le mari, il s'en aille le soir, qu'il revient tard, etc. Et qu'elle lui dit, alors c'était bien que tu as appris, etc. Ça, c'est ça qu'il y a de plus motivant pour le mari. Quel que soit l'âge, c'est ça qu'il y a de plus extraordinaire, parce qu'il sait qu'il ne va pas s'amuser. Et que sa femme... Et au contraire, il n'est pas là pour perdre son temps. Sa femme, elle attend un retour de ça. Oui. Oui, oui, cher, c'est bon. Voilà. On avance. Paragraphe suivant. Qui avoue meftere rabbana mi berabi ami. C'est bon, toi? Quand.
J'en verra, il avait dit. J'en verra. La femme est l'avenir de l'homme.
Voilà. Qui avoue meftere rabbana mi berabi ami. Quand les rachamim se séparaient de la maison d'études de Rabbi Ami. Alors, ça, c'est assez étonnant. C'était une sorte de... Alors, bon, ils ne vivaient pas l'étude comme ça. Alors, souvent, il y avait des maîtres qui étaient dans des yeshivot, etc. Et les gens... C'est pas comme maintenant, dans chaque village, il y avait une maison d'études, etc. Souvent, les gens, pour étudier, ils étaient obligés de partir une semaine, deux semaines, des fois un mois, loin de leur maison. Et ils étudiaient, puis après, ils rentraient chez eux. Pour un mois, honnêtement. Bon, il y avait plein de sortes de manières d'étudier. Et quand les... gens se séparaient, les élèves se séparaient de la maison d'études, ils se bénissaient mutuellement. C'est une drôle de coutume, d'accord? Ils se bénissaient mutuellement en se souhaitant des vœux pour leur retour à la maison. D'accord? C'est une drôle de manière, c'est quelque chose qui a disparu. Hein? Alors, regarde ce qu'ils se disaient. Qui abou mefteré rabbanan verabi ami, quand ils se séparaient les chachamim de l'école de Rabbi Ami, v'amrila Nibé Rabbi Hanina, il y en a qui disent c'est l'école de Rabbi Hanina, Amrele Achi. Il disait ceci, Olamcha tire bechayecha, que ton monde, tu le vois de ton vivant. Phrase hautement sibylline. Olamcha, Olam c'est le monde. Olamcha, ton monde. Tire, que tu le vois, bechayecha de ton vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se souhaitait que tu vois ton monde de ton vivant.
qui vivent le plus longtemps possible.
Oui, mais ça, c'est possible. Ouais. Et ça, c'est pas en rapport avec la traduction. Ça veut dire ton monde. C'est quoi ton monde d'abord? C'est quoi ton monde? Si je dis ton monde.
C'est là où il va retourner, son univers, son environnement.
Alors, avec quoi tu le vois de ton vivant? Ça va, il lui souhaite de rentrer en bonne santé chez lui. Il y a des autres manières de dire ça.
Dans le monde, c'est sa vie, à lui.
Peut-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ta vie, tu la vois de ton vivant?
Ton monde, c'est ton avenir.
Tu vis le plus longtemps possible.
Tu vois tes enfants et les enfants de tes enfants.
Pas mal.
Les bon.
Peut-être. Ouais, c'est possible ça. Mais pourquoi l'expression de ton monde? Ouais. Il y a une très jolie explication. Qu'en réalité, chacun, quand il vient dans ce monde, Hachem, pour lui, il a un plan. D'accord? Il a un plan, il l'a créé de telle manière, dans telle famille, dans telle, ci, dans ça. Il a un objectif pour lui. D'accord? Cet objectif, l'homme, il peut ou non le réaliser. Après 120 ans, d'accord? On va, comme il disait en français, une expression, on va matcher. C'est-à-dire, on va dire, voilà, tu as fait ça? Voilà ce qu'on attendait de toi. D'accord? On t'a donné tes grands-petits, telle famille, telle ci, telle ça. Bien évidemment, hein? C'est pas toujours... Il y a des fois des plans de vie qui sont plus difficiles que d'autres. Pour des raisons, on avait parlé, les Gilgoulim, etc. Tout le monde n'a pas le même plan de vie. Il y a des gens qui ont des plans de vie difficiles, des gens qui ont des plans de vie moins difficiles. Le mérite, il est lié à ça. Ok? Mais après 120 ans, c'est ça qu'on va nous montrer. Voilà la photo, ou le déroulé, ou le film. Voilà ce qu'on attendait de toi. Si ça match, c'est-à-dire si tu vois que tu es à peu près arrivé à ce qu'on attendait de toi... C'est un grand bonheur. Ok? Et donc il dit, Olam ratire barriera salabraha on la vase. Nous souhaitons que ton monde espéré, tu le vois de ton vivant. Que tu réalises ce pourquoi tu as été créé. D'accord? C'est-à-dire, en réalité, c'est ça qu'un homme, il doit comprendre. Hachem, il nous a tous créés différents, dans des milieux différents, avec des situations différentes. D'accord? Avec des difficultés, des bonheurs différents. Chacun, il a. Et on ne peut pas savoir. Il y a aussi une manière de vivre les choses. Il y a des gens qui vivent, qui ont des épreuves, qu'on sait qu'ils ont des épreuves. Hachem, il leur donne des forces différentes. On a tous des objectifs différents. Le but, c'est la manière dont on va vivre toutes ces choses-là. La bracha, l'intelligence, la difficulté, les enfants, tout ça. Comment on a répondu à ça? Et c'est ça notre monde. Et en réalité, on doit arriver à remplir les cases. En fait, chaque jour, il a. Vous rappelez, on avait parlé de ça, qu'Avram, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. C'est-à-dire quoi, venir avec ses jours? Aujourd'hui, il y a un défi. Aujourd'hui, il y a un challenge, qui n'est pas le même qu'hier, qui n'est pas le même que demain. Chaque jour, il y a un challenge différent. Une rencontre différente, une discussion, une difficulté différente, une épreuve de Emouna, etc. Ou un bonheur différent. Et ta réaction à ça, c'est coché, c'est fini, c'est différent de demain. Alors, bien sûr, il y a une progression, il y a un suivi, un parcours. Mais chaque jour, il est différent. Et chaque jour, il a un objectif différent. Ok? Donc, c'est ça la bracha. Olamcha tire bechayecha. Je te souhaite d'accomplir dans ta vie, de ton vivant, le monde pour lequel tu étais destiné. Voilà.
Mais c'est, là, si tu veux, il reprend la bénédiction de Yaakov à ses enfants. Qu'on dit d'ailleurs.
Ah oui, c'est pas faux. Oui, pourquoi? Explique-moi.
Parce que.
On avait parlé de ça, je sais pas si tu vas me dire ça, vas-y. Quel rapport avec la bénédiction? Quel rapport avec la bénédiction de Jacob?
La bénédiction de Jacob, je te bénis pour ce que tu as été fait et que tu l'Éternel t'éclaire.
Très bien, c'est exactement. Je suis vraiment, il parlait de ça.
C'est-à-dire, c'est une abréviation, il parle de ça, monde.
C'est une chose très importante à comprendre. Que quand, en général, nous, quand on bénit nos enfants, ou on bénit n'importe qui, on dit « je te souhaite d'être riche, et si, et ça », bon, ça va, c'est sympa. Ouais, mais en réalité, la vraie bénédiction, c'est de faire découvrir à l'autre ses potentialités, ce pourquoi il a été créé. D'accord, là. Et c'est ça la bracha qui Yaakov. C'est pour ça qu'il y a des brachot qui sont des fois plus dures que d'autres. Parce que, quand Yaakov il a fait, il dit « voilà, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, voilà tes kélim, faire découvrir à l'autre, et en réalité c'est un père ». Les parents, ils sont capables de faire découvrir dans leurs enfants leurs qualités, leurs défauts, et de les aider à découvrir ça. C'est la plus grande bénédiction qu'on peut leur faire, plutôt qu'ils se leurrent avec des choses, je peux et je pourrais, et aller au-devant de déceptions. D'accord? Donc ça, c'est la bracha. Exactement, c'est ça la traduction. Olamcha tire bechayecha. C'est juste. Ve'acharitecha, techa yolam haba. Et on te souhaite que ta fin, justement, La fin de ta vie, c'est d'aboutir à ce Olam Haba, vetikvatcha le dor dorim. C'est ce que tu as dit, Georges, que ton espoir aille de génération en génération. D'accord ? C'est tout à l'heure, j'ai dit quand même une chose qui n'était pas juste, mais bon, je l'avais dit volontairement. J'ai dit que, de façon un peu abusive, que Olam Haba, c'est intéressant, on ne bouge pas, on est fixe. C'est faux. Olam Haba, on n'est pas fixe. Enfin, personnellement, on est fixe. On ne peut rien faire pour changer. Mais par contre, les restants peuvent nous faire changer. C'est-à-dire que si tu as laissé des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui vont continuer, ben tout ça, c'est grâce à ton mérite. Ah, je me rappelle de pépé, je me rappelle de papy, je me rappelle de papa, je me rappelle d'eux. Et voilà pourquoi je suis la voie. Suivre la voie donne du mérite, même après 120 ans, à un défunt, quoi qu'on fasse. Donc en vérité, et c'est ça qu'on avait parlé de ça à Rosh Hashanah, on a parlé déjà de beaucoup de choses, mais à Rosh Hashanah, quand c'est marqué, la Gemara dit, il y a le livre des Sifrei Chaim et Sifrei Metim, le livre des vivants et le livre des morts qui est ouvert. Si on ouvre les morts, laissez tranquille, ils sont morts, ils ont été jugés. Ils sont morts il y a 100 ans. Oui, mais non, on rouvre le livre des morts. D'accord ? Alors attention, c'est comme les clics à la banque, on l'ouvre que pour le positif. D'accord ? Sauf si on a une responsabilité. C'est-à-dire, c'est bon, on a un petit enfant qui fait des bêtises, on dit « Ah !» On te redescend. Non, une fois qu'on est monté, on redescend pas dans la maman. Comme à la banque. Tu ne peux faire que du bonus. Sauf si on est responsable. Ça veut dire qu'attention, si quelqu'un, il est responsable de la chute et de la déchéance de ses, parce qu'il a fait, parce qu'il a mal agi, d'accord ? Ou il a mal éduqué, alors il a une part de responsabilité même dans le futur. Mais en règle générale, si elle était tranquille, et qu'au contraire, il a donné une bonne éducation, des fois, il peut récupérer du bonus 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce qu'il y a un descendant à lui qui va s'élever, faire des mitzvot, etc. On dit, ah, ça, c'est ton mérite à toi.
Et on parle aussi, le yartzeit, enfin le sger, lorsqu'on dit le tianisme, ou quand on dit le tianisme.
On fait monter l'âme du défunt, on lui donne des mérites. D'accord ? À l'inverse, je vous rappelle aussi, mais ça, on sait que c'est carte, mais c'est pas ça. À l'inverse aussi, les défunts, le mérite des défunts, ils peuvent aussi influer, aider aussi les vivants. Donc ça, c'est dans le sens, on arrive là-bas. Oui.
Ça, je suis d'accord.
C'est pour ça, quand on va voir un rab, on dit par le mérite du rab.
Aussi, voilà, exactement, exactement.
Quand vous dites, même après la mort, par exemple, quelqu'un qui a créé un Talmud Torah, ou inversement, qui l'a fermé, donc ça veut dire que même après la mort, il peut y avoir des instances.
Oui. Et si tu as enseigné, les disciples, ils peuvent te faire progresser, les disciples des disciples, les enfants, les petits-enfants, ils continuent à te faire progresser. Alors.
Attends, vas-y, je te dirai après.
Libécha, donc voilà, tout ça c'est des bénédictions qu'ils disaient, ils ont été sympas les gens. Mm-hmm. Ils disaient Libécha, yegelidvuna, que ton cœur profère la sagesse. Picha, que ta bouche, yedaber chokhmot, elle parle des chokhmot. Ou shonar et ta langue, yachish renanot, qu'elle exprime des louanges à Hachem. Afapecha, que tes paupières, yachiro negdecha, elle te dirige dans la bonne voie. Et necha, et que tes yeux, yahiru, s'éclaire, bim or Torah, par la lumière de la Torah. Ou panecha, yaziru, et que ton visage, il soit éclairé, kezor rakia, comme le ciel. Donc bon, il se bénissait de tout ce qu'on peut souhaiter. Un chaver. Siptotecha yabiudaat, que tes lèvres expriment la sagesse, vechiliotecha ta'alozna mesharim, et que tes reins, se réjouissent dans la droiture. Alors, on va expliquer cette phrase, c'est quoi les reins? Alors, ça, c'est une image. Vous savez que dans la Torah, les organes, ils sont le lieu imagé de choses spirituelles. Le cœur, c'est le lieu des sentiments, le moire, c'est le lieu de la raison, d'accord? Et les reins, dans leur aspect filtrant, d'accord, c'est eux qui sont le lieu de la sagesse aussi. On dit par que Abraham avait. Pourquoi? Parce que le rein, par sa fonction, il filtre ce qui est bon, il rejette les résidus. Eh bien, la sagesse, elle a aussi un rôle de filtration. Tu acquiers beaucoup, beaucoup de choses et tu n'en gardes que l'essence. Et donc, c'est pour cette raison que la Gemara dit, mais comment Abraham Avinu, il a été aussi grand? La Gemara dit, ces deux reins, c'est eux qui l'imbibait de chokhma, qui l'imbibait de sagesse. C'est-à-dire qu'il a pris. Donc c'est intéressant, ça veut dire que, comme si les reins c'était des entonnoirs de toute la sagesse du monde, qui filtrait les choses et qui ne laissait qu'une substance vivante moelle. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses dans tout ce qui nous entoure et c'est à nous en faire le filtre. C'est pour ça qu'il dit Kiliotecha talozna mecharim.
Je n'ai pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Ufaniecha, Yahiru, Kiror, Avakia.
Non. Yahiru, oui. Parce qu'il dit Enecha Yahiru bimora Torah, que tes yeux soient éclairs par la lumière de la Torah. C'est-à-dire que normalement, un homme qui est pétri d'études et qui est pétri de sagesse, dans son regard, on voit la sagesse. D'accord ? Ou Panecha, et ta face, qu'elle éclaire. Que le visage, normalement, nous, on est plus sensible à ça. Mais normalement, il y a ce qu'on appelle Chochmat Ayad et Chochmat Apanim. Avant, ça s'apprenait. D'accord ? Il y a des sages qui le connaissent. La sagesse du visage. Puisque Panim, c'est le visage. D'accord ? Qui est un pluriel, et qui est le panim, c'est l'expression du pénim. Pénim, c'est l'intériorité. Normalement, le panim, il reflète l'intériorité d'une personne. Et les sages d'avant, d'accord, il n'y a encore pas très longtemps, ils savaient repérer sur une personne son intériorité. Ils savaient voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et là, bon, il y a aussi Chochmatayad, etc. Donc ici aussi, quand on dit ton visage, qu'il éclaire de la lumière du ciel, c'est-à-dire qu'il est clair de la chochma que tu as appris, qu'on le voit sur ton visage. C'est ça qu'on se souhaitait. Ok ? On est bon ?
Zohar
Akira, c'est la splendeur du ciel. On va s'arrêter là, c'est bon pour aujourd'hui.
David,
oui.
Quand tu as parlé dans le premier paragraphe de...